Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore une fois ravi d'être là pour vous apporter la prédication ce matin sur la Pentecôte. Alors, dimanche de Pentecôte, comme dimanche dernier, ce n'était pas très original de prêcher sur l'Ascension, n'est-ce pas Myriam, je sais où elle est, mais je ne suis pas plus original ce matin en prêchant sur la Pentecôte, et il me semble que ça fait partie de ces occasions qu'il nous faut ressaisir pour redire la base, puisque c'est une la thématique dans laquelle on s'inscrit ce matin, c'est la base, et on va parler de la Pentecôte. Pour cela, on pourrait prendre bien des textes pour parler de l'Esprit, on pourrait prendre des textes de Paul qui nous parlent de l'Esprit, de la manière dont l'Esprit se manifeste aujourd'hui en Église, la manière dont les dons sont exercés, etc. Eh bien, j'ai décidé de revenir à la base, complètement la base de cette fête-là, en partant de la Pentecôte juive pour arriver ensuite à la Pentecôte chrétienne et pour voir comment tout cela forme un ensemble, un tout, et qu'il nous faut comprendre pour vraiment comprendre la Pentecôte chrétienne. Qu'est-ce que Acte 2, donc on le lira tout à l'heure, qu'est-ce que ce langue de feu qui se dépose sur la première communauté des croyants, qu'est-ce que signifie ce langage-là, pour sans faire de mauvais jeu de mots, mais qu'est-ce que signifient ces langues de feu qui sont posées sur la première communauté des croyants? On a beaucoup de métaphores, de différentes images pour parler de l'Esprit. On fait que ça dans les chants. On dit plein d'images pour parler de Saint-Esprit. Mais quelle est cette première image? Quel est le sens de cette première image de ces langues de feu qui se posent sur les croyants? Alors, pour ce faire, on ne va pas être très original non plus. On va lire dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'il s'agit de la Pentecôte juive. Qu'est-ce que la Pentecôte juive? On ira regarder dans des textes qui sont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'on appelle des apocryphes, on les lira, on écoute bien du Cabrel lors de la scène, donc je vous proposerai de lire quelques apocryphes tout à l'heure, on en dira un mot, et puis si ça vous intéresse, il y aura même un fratéo sur le sujet. Et enfin, on ira regarder dans le Nouveau Testament et relire Acte 2. Alors, comme je disais, on va prendre l'angle de la fête, c'est un cours que j'ai donné en faculté, deux heures de cours sur la Pentecôte. Donc on essaiera de faire ça en 20 minutes, j'ai toujours pas commencé le chrono, j'ai un peu triché, mais en 20 minutes, et de dire l'essentiel sur cette fête-là, depuis les racines de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Alors commençons donc par l'Ancien Testament. La première institution de la Pentecôte, donc la Pentecôte juive, oui, la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne à proprement parler, mais c'est une fête juive, se trouve dans le livre de l'Exode, une institution donnée à Moïse, et voici ce qui nous est dit en Exode 23, 16. « Observe la fête de la moisson, celle des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récolteras des champs le fruit de ton travail. » Alors ici, pas forcément évident qu'on parle de la Pentecôte en tant que telle, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les textes, ici, la fête de la moisson, eh bien, c'est la Pentecôte juive, la fête où l'on récolte les épis de blé, les premiers fruits, eh bien, c'est la fête de la moisson, c'est la Pentecôte juive. Ça va devenir d'autant plus clair en Exode 34, 22, où il y a un rappel de cette fête. « Tu célébreras la fête des semaines, celle de la première moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. » Alors ici, c'est le mot en hébreu « Shavuot », donc c'est comme ça qu'on désigne la fête aujourd'hui. Les Juifs parlent de Shavuot lorsqu'ils parlent de la fête des semaines. La fête, à savoir, c'est la même fête qu'en Exode 23,16, la fête de la moisson. Il est bien clair, c'est la première moisson du froment. Ensuite, c'est la fête de la récolte. Alors, pourquoi la fête des semaines, Shavuot? Retenez bien, Shavuot. Allez, redites-le après moi. Shavuot. On retient bien, Shavuot, c'est important. La fête des semaines. Vous voyez que déjà, cette même fête a deux noms. La fête de la moisson et la fête des semaines. Semaines, pourquoi? Pourquoi la fête des semaines? Eh bien, parce qu'on a une autre description de cette même fête qui est faite en Lévitique 23, 15, où il nous est dit qu'il faut compter 7 semaines plus un jour à partir de Pâques. Donc ça devient la fête des semaines, puisqu'on compte 7 semaines après Pâques pour faire célébrer la fête de la Pentecôte, la fête des premiers fruits. Donc environ durant le troisième mois de l'année, puisque dans l'année juive, l'année commence en avril avec Pâques, eh bien, durant le troisième mois, retenez ça aussi, le troisième mois, eh bien, il y a la fête des semaines. Fête des semaines parce qu'on compte sept semaines, le chiffre 7 qui a son importance dans la Bible, après Pâques. Alors, d'où vient vous allez me dire, cette semaine, d'où vient le nom Pentecôte dans ces cas-là? Eh bien, c'est une des traductions de l'Ancien Testament qui, si on multiplie cette semaine par le nombre de jours, eh bien, c'est le lendemain, 7 fois 7, 49, plus 1, donc c'est le lendemain, 50. Eh bien, Pentecôte, c'est le mot tout simplement pour dire 50. Lorsque la traduction grecque de l'Ancien Testament traduit la fête des semaines, eh bien, elle va utiliser le mot Pentecôté, eh bien, ça a donné le mot Pentecôte qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la Pentecôte, c'est la fête des semaines. Et dans la description qui est faite en Lévitique 23, il nous est dit qu'on apporte là une offrande végétale, on apporte deux pains de farine, levés et cuits, on apporte des pains levés, et pas des pains non levés, comme on le faisait à Pâques, mais on apporte ici des pains levés. On va voir pourquoi. Parce que le pain sans levain rappelle la misère d'Égypte. On vient d'Égypte. À Pâques, on se rappelle que l'on vient d'Égypte. Et le pain levé, lui, rappelle la joie d'être revenu d'Égypte. Et la joie d'avoir... célèbre la libération d'Égypte. On offre aussi sept agneaux, un bouc pour le péché et deux agneaux pour la paix. Le texte nous dit en Lévitique 23, je ne le lis pas parce qu'on n'aurait pas le temps, que c'est une convocation sacrée qui a vocation à être répétée, et on arrête de travailler, on laisse même une partie aux pauvres et à l'étranger, là encore, en souvenir de ce qui s'est vécu en Égypte. Donc, Shavuot, on retient bien. Cette fête-là, elle ne va pas être beaucoup répétée dans l'Ancien Testament, on va voir que peu d'autres occurrences de cette fête. Je vous propose de lire maintenant deux chroniques 15, 10 à 15. Donc là, on fait un bond dans le temps, et vous allez voir quelque chose de surprenant. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le troisième mois. Troisième mois, c'est quand ? Pentecôte, super. Shavuot, très bien, Shavuot. Le troisième mois de la 15e année du règne d'Assa. Donc là, c'est un roi de Juda qui a vécu autour du 9e siècle avant notre ère. Ce jour-là, ils sacrifièrent au Seigneur sur le butin qu'ils avaient amené. Alors là, on y va, hein, au niveau des sacrifices. 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petit bétail. Sacré sacrifice. Qu'est-ce qu'il se fait là? Ils contractèrent une alliance en s'engageant à chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne cherchait pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils firent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des acclamations, au son des trompettes et des trompes. Tout Juda se réjouit de ce serment, chez voix, car c'est de tout leur cœur qu'ils l'avaient fait. C'est de toute leur volonté qu'ils avaient cherché le Seigneur, et celui-ci s'était laissé trouver par eux. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. Alors, Shavuot, on l'a dit, ça veut dire les semaines. Ici, en deux chroniques, 15, donc 9e siècle avant notre ère environ, lors de la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte qui était une fête où l'on célébrait les prémices de la terre, une fête agricole, devient une fête des serments. Shavuot. C'est quasiment le même mot en hébreu. Alors, c'est Shavua ou Shavua. Donc, à une voyelle près, les voyelles n'étant pas écrites en hébreu, c'est toute la subtilité, à une voyelle près, la semaine se dit de la même manière qu'un serment. Intéressant. Pourquoi ? Parce que dès le 9e siècle avant notre ère, ce qui était une fête agricole, la fête des semaines, devient une fête d'alliance. De serment. Ça va ? Vous me suivez ? Ok, très bien. Alors, si vous me suivez, on va continuer. Ce qui est intéressant, c'est que durant la période dite intertestamentaire, entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, eh bien, la Pentecôte va être célébrée, Shavuot va être célébrée comme une fête d'alliance, et non plus comme une fête pas non plus, mais et comme une fête agricole, à la fois comme une fête d'alliance et comme une fête agricole. Pour cela, je vous propose de lire donc un livre qui ne fait pas partie de nos Bibles, mais qui reflète, quelque part, comment vivaient les Juifs entre certaines communautés juives vivaient entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Vous allez voir que comme ça, on va mieux comprendre le Nouveau Testament. Je ne dis pas que ces livres sont inspirés, je ne dis pas absolument pas ça. Pour en apprendre un peu plus, il faut venir au Fratéo sur le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourquoi certains livres sont dans nos Bibles, d'autres pas. Mais je vous laisse avec des questions en suspens jusqu'à mi-juin environ, où je vous retrouverai nombreux. Alors on va lire dans le livre des Jubilés. Jubilés, chapitre 1, verset 1. C'est ainsi que commence ce livre des Jubilés. Il arriva, dans la première année de l'exode des enfants d'Israël, hors d'Égypte, au troisième mois, le 16e de ce mois, que le Seigneur parla à Moïse, en disant « Monte auprès de moi sur la montagne, et je te donnerai les deux tables de pierre de la loi et des commandements. Tu leur enseigneras tout ce que j'ai écrit. » Alors ce livre-là, il date du 3e, 2e siècle avant notre ère environ. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre des Jubilés, pour le livre des Jubilés, alors lui, il se plaît à re-raconter l'histoire d'Israël de manière non historique. C'est un genre littéraire de l'époque, mais je vais pas empiéter sur le Fratéo de mi-juin. Mais il se plaît à re-raconter l'histoire d'Israël, l'histoire de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, la révélation de Moïse, la révélation de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, pour l'auteur du livre des Jubilés, elle s'est vécue lors de la Pentecôte. Encore une fois, la fête de la Pentecôte est une fête d'alliance, une fête où Dieu se révèle et une fête d'alliance, où Dieu donne les deux tables de pierre de la loi. Ok. Je lis un deuxième apocryphe. J'enfonce le clou. En lisant le livre d'Enoch, 1 Enoch, chapitre 14, versets 8 à 14. Voici ce qui m'a été montré en vision. Alors là, il y a une sorte de vision apocalyptique de ce qui se vit. Voilà. Des nuages m'appelaient, des brouillards criaient vers moi, des étoiles filantes et des éclairs me troublaient et me bouleversaient. Dans ma vision, des vents m'ont pris sur leurs ailes, m'ont élevé et emporté vers le ciel. Je suis parvenu d'un mur bâti en grêlant et entouré de langues de feu. Et ce spectacle commença à m'effrayer. Chose intéressante, c'est qu'on va lire acte 2 dans un instant, mais les langues de feu, c'est un langage connu de l'époque. Un langage connu qui est utilisé lorsque Dieu se révèle. Ici, les langues de feu, il y avait un mur bâti en grêlant et entouré de langues de feu. On décrit la présence de Dieu en disant qu'il y avait des langues de feu. Ok, ça va? Je ne suis toujours pas hérétique? Ok, on va voir. Vous prononcerez à la fin de la prédication. Lisons maintenant acte 2, parole de Dieu inspirée, je le crois, donc le récit même de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, donc le fameux jour, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, notre propre langage, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Là, je continue, parce que c'est intéressant. On l'a chanté en deux, en différentes langues. Eh bien, là, c'est pareil, différentes langues. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Alors, ce qui est assez intéressant, puisque vous étiez là la semaine dernière pour l'ascension, c'est que Luc, l'auteur du livre des Actes, lorsqu'il écrit Acte 1 et Acte 2, se plaît à montrer des parallèles entre Acte 1, l'ascension, donc l'ascension de Jésus, avec l'ascension de Moïse qui monte sur le mont Sinaï. Et en Acte 2, eh bien, quand Dieu se révèle tout là-haut sur le mont Sinaï, rappelle eh bien, la Pentecôte. Donc en Acte 1 et Acte 2, l'auteur Luc se plaît dans le livre des Actes à rappeler des affinités entre l'ascension et la Pentecôte, entre l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï et la révélation de Dieu au Sinaï. Il y a 40 jours, c'est pendant 40 jours que Moïse est sur le mont Sinaï. Jésus apparaît combien de temps, l'apparition de Jésus ? 40 jours, vous l'avez vu la semaine dernière. Il demande d'attendre aux anciens, Moïse, au pied de la montagne. Eh bien, en Acte 1, Jésus demande d'attendre aux apôtres. Dans la révélation au Sinaï, les tribus sont symbolisées par les 12 pierres. Ici, très intéressant, en Acte 1, 26, juste avant la Pentecôte, alors qu'ils ne sont plus que 11 disciples, il est important que Matthias soit ajouté aux 12 pour que la symbolique soit conservée. Il est souligné dans la révélation au Sinaï que le peuple était uni, un, dit le texte hébreu. Le peuple était un. En Acte 2, 1, ils étaient tous ensemble. Toute la communauté des croyants, les disciples là, étaient tous ensemble. On insiste sur le fait qu'ils étaient tous unis. Il y a du bruit, du vent, une véritable, ce qu'on appelle théophanie, révélation de Dieu extraordinaire. Eh bien, cette même révélation se vit au Sinaï, tout comme elle se vit en Acte 1 et en Acte 2. Et tout cela, cette révélation, elle englobe tout le monde. La Sinaï est tout en fumée lors de la révélation au Sinaï, et toute la maison est remplie du bruit en Acte 2. Donc, Luc, lors de sa description, décrit quelque chose d'historique qu'il sait de source sûre, mais il se plaît dans un procédé littéraire à rappeler l'alliance au Sinaï. Tout ça, ça nous dit quoi ? Eh bien, ça nous dit que Acte 2, basiquement, c'est un traité d'alliance. Avant, il y a quelque chose d'extraordinaire, Dieu envoie son esprit, mais c'est le traité d'une nouvelle alliance. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 16 et au verset 60, avait promis une alliance éternelle, déjà depuis longtemps. Quelque chose que fait le prophète Jérémie, et là vous allez voir la subtilité. Jérémie 31, 33, qu'est-ce qu'il nous est dit ? « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, via l'Esprit. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dieu qui met la loi au-dedans d'eux, c'est les nouvelles tables de la loi qui sont mises dans nos cœurs. Exactement comme la révélation au Sinaï, avec quelque chose d'extraordinaire qui est l'Esprit qui vient habiter dans le croyant, eh bien on a là le nouveau traité d'alliance qui définit l'Église de Dieu. C'est le traité d'alliance qui définit la nouvelle alliance. Ce n'est plus seulement les Juifs qui sont inclus dans le peuple de Dieu, mais tous les peuples. Le Saint-Esprit donne à parler dans des langues que tout le monde peut comprendre, tous les peuples peuvent le comprendre. Je vais reprendre les mots d'un commentateur que j'ai beaucoup apprécié. L'Esprit Saint est venu sur les apôtres lors de la fête par laquelle le judaïsme commémorer la promulgation de la loi, le don de la loi et la conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple réunis en assemblée. Dieu se révèle au peuple en assemblée, réunis. On insiste beaucoup sur le caractère individuel de l'Esprit Saint, mais il vient sceller la nouvelle Église, le peuple de Dieu assemblé en Église. La Pentecôte chrétienne se présente ainsi comme une fête de la nouvelle alliance, constituant en l'Église un nouveau peuple de Dieu. C'est à l'économie de l'esprit, c'est au rôle de l'esprit qu'il revenait d'être effectivement universel. Telle elle apparaît dès le lendemain matin de la Pentecôte. Mais son universalité ne pourra se réaliser que progressivement, petit à petit, au fur et à mesure que le témoignage des apôtres, le témoignage apostolique, se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Au matin de la Pentecôte, l'universalité de l'Église trouve son expression concrète dans le don qui permet aux apôtres de parler en d'autres langues, dans le langage particulier de chacun des peuples auxquels ils doivent leur témoignage. Alors toute cette réflexion autour d'Acte 2, qui est le nouveau traité d'alliance, avec toutes les expressions, le caractère extraordinaire d'un nouveau traité d'alliance, tout comme la révélation au Sinaï, m'a fait relire Acte 1, 8, avant que l'Esprit Saint soit donné. Et là, j'aimerais paraphraser Acte 1, 8. Je continue dans mon côté hérétique. Mais nous avons reçu une puissance, nous pouvons le dire aujourd'hui, le Saint-Esprit, survenant sur nous. Soyons donc ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut s'approprier cette promesse qui avait été faite et inspirée du prophète Joël pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, avant d'être lieu d'édification des croyants, du parler en langue, là où les chrétiens se déchirent sur des interprétations, etc., est-ce que le parler en langue, oui ou non, aujourd'hui en Église, le don de prophétie, etc., il forme avant tout la communauté des croyants. Et c'est la base, sans être basique, parce que des fois on se déchire sur des détails, alors que la base de l'Esprit-Saint, c'est bien ça. Elle nous donne les capacités, elle nous rend capables d'être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit ici vient nous faire parler dans des langues qui sont compréhensibles par tous, quelque part, si on devait paraphraser. Il vient nous donner les capacités, de manière miraculeuse, à ce que le langage puisse être audible pour nos contemporains, pour les gens de Nyon. Nous devons le témoignage, mais le Saint-Esprit vient agir dans les cœurs pour faire en sorte que ce langage puisse être compréhensible par tous. Et c'est là la base de l'Esprit-Saint. Avant d'être édification pour moi, Anthony Perrault au XXIe siècle, moi dans mon petit jeu, il vient avant tout créer la nouvelle alliance entre Dieu et le peuple qui est de toute langue aujourd'hui. Il n'est plus simplement juif, il ne parle plus simplement hébreu, il parle toute langue, il parle même français, c'est dire. Alors voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, simplement en rappelant la base que ce Saint-Esprit-là vient sceller la communauté des croyants. Et c'est la base, il me semble, sans être basique, de se rappeler que la Pentecôte juive est devenue une fête par laquelle on célébrait l'Alliance. Et aujourd'hui, pour la Pentecôte, nous rappelons que Dieu a fait une alliance extraordinaire avec son peuple, que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédite, qu'il mettrait la loi dans nos cœurs, qu'il graverait les tables de la loi dans notre cœur. Eh bien, cette prophétie-là s'est réalisée il y a 2000 ans par la venue de l'Esprit-Saint dans les premiers croyants et continue d'agir. La Pentecôte, il y a eu un moment, mais elle continue d'agir en ce que la loi de Dieu est gravée dans le cœur de nos contemporains, et c'est ma prière. Et pour une petite implication pratique, je dirais que le Seigneur nous donne à témoigner et aussi qu'on puisse le prier, qu'il puisse intervenir par des langues de feu, que nous, on peut avoir un langage particulier pour nos contemporains, mais c'est ces langues de feu qui viennent graver dans le cœur auprès de nos contemporains que cette nouvelle alliance est aussi pour eux aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Merci notre Père pour ce don de l'Esprit que toi et ton Fils vous avez envoyé pour nous accompagner dans ce monde et pour former une nouvelle alliance, une alliance extraordinaire où tout le peuple, tout le monde entier peut aujourd'hui entrer dans cette nouvelle alliance, t'appartenir. Et Seigneur, merci parce que nous, en communauté, nous croyons que nous appartenons à cette communauté des croyants, nous appartenons à cette Église universelle. Et c'est une joie, un privilège extraordinaire, Seigneur, que tu nous aies ouvert les bras, que tu nous aies tendu la main. Et Seigneur, on veut te prier que tu puisses nous donner des langues de feu aujourd'hui. Des langues de feu pour nos contemporains qui puissent, ce langage particulier qui puisse être audible et compréhensible par tous. Viens graver tes tables de la loi dans le cœur de nos familles qui ne t'appartiennent pas encore, dans le cœur de nos amis, de nos collègues du travail, de toute notre sphère d'influence. Eh bien, Seigneur, donne-nous des langues de feu, nous t'en prions. Donne-nous des langues de feu qui puissent venir graver tes lois dans leur cœur, Seigneur. Merci pour cet esprit qui nous accompagne, qui intercède pour nous au quotidien, qui est là à nos côtés, Et Seigneur, on veut te remercier pour ce don incroyable que tu viens résider en nous, tu viens habiter dans nos cœurs, et on veut pour cela te remercier, Seigneur. Amen.